Chapitre 2. Mal du pays. Se voyant casée, Thérèse songea aussitôt à la grande lacune de sa correspondance. Elle écrivit à Galimard en la priant d'adresser poste restante à Holborn les lettres qui pouvaient être arrivées de Suisse depuis 2 mois. Cet arrangement avait un double avantage. Thérèse ne désirait point encore affronter les questions de la futaie lyonnaise et, d'autre part, le sourire narquois qu'elle surprenait au guichet avec la perpétuelle réponse négative serait supprimé dès qu'il y aurait des lettres 33-33. Elle en trouva plusieurs, entre autres un gentil billet de Galimard qui demandait « N'y aura-t-il pas moyen de se voir ? Quand ? Où perchez-vous » Quand toutes les petites filles étaient couchées et que la paix régnait enfin dans la maison, Thérèse écrivait chez elle et à ses nombreuses correspondantes, comblant de son mieux le grand trou de silence, expliquant que sa première situation ne lui avait pas convenu et que, depuis lors, elle avait été quelque temps sur la branche. D'ailleurs, pour ne point trop inquiéter ses proches, elle leur avait adressé de brefs messages, les datant toujours de la pension Stephen, et, sauf cette inexactitude que sa conscience lui reprochait, ne disant rien qui ne fût la stricte vérité, à savoir qu'elle cherchait des élèves et n'en avait pas encore trouvé. Dans le poignant mystère où elle se débattait comme en prison, une seule consolation lui restait. Ni en Suisse, ni à Londres, sauf Galimard, personne ne savait rien de ce qui lui était arrivé. Personne, même Galimard, n'avait entendu le nom de Pierre Coum. C'était, pour tous ceux qui connaissaient Thérèse, une parenthèse de 3 mois nulle et non avenue, et comme n'ayant jamais été. Entre la pension Stephen et le pensionnat Wickert, il ne s'était rien passé qu'un changement d'adresse. Facile à maintenir si Galimard voulait bien se taire. Mais Galimard n'avait-elle point montré à quelqu'un de la pension la petite carte que Thérèse lui lançait dans le trajet de Londres à Gloucester, cette pauvre petite carte exubérante qui clamait « Je suis mariée, je suis heureuse !» et signait Thérèse tout simplement. « Il faudra qu'une fois ou l'autre je rencontre Galimard quand ce ne serait que pour lui demander le secret », pensa Thérèse, tâchant de trier et de classer les tristes débris de son illusion effondrée, de se bien mettre dans l'esprit à elle-même ce qu'elle pouvait dire, ce qu'elle devait sceller, ce qu'il était nécessaire d'oublier. Elle avait serré dans une petite boîte l'anneau de Pierre Coum. Elle s'était naturellement présentée à Mrs. Wicker sous le nom de Lemaire, celui que portait son diplôme, et c'était à ce nom et aux soins de Mrs. Wicker qu'elle recevait maintenant ses lettres de Suisse. Pour une fille de son caractère épris d'or et d'une éducation honnêtement traditionnelle, il y avait un soulagement de sa peine, un apaisement, à avoir désormais une situation avouable, une correspondance régulière et simple, une délivrance complète des subterfuges et des suppositions. Ah, ces suppositions! Elle haïssait le mot même, elle l'entendait dans sa mémoire avec l'accent de Pierre. Cette voix moqueuse et tendre, ardente puis irritée, jamais elle ne pourrait l'oublier, même si de toute sa vie elle ne devait plus jamais l'entendre. Quand novembre vint avec son brouillard jaune, Thérèse subit un assaut terrible de mal du pays. La vie lui parut n'avoir plus aucune saveur, son cœur lui faisait mal physiquement. Elle eut un jour une défaillance dans la salle d'études. Elle s'épouvanta, courut chez un grand spécialiste de Harley Street, qui l'ausculta, la tapota et la rassura. Elle reçut une ordonnance et paya 1 guinée pour la précieuse certitude qu'elle n'avait rien qu'un peu d'anémie. La pensée de son petit coin natal devint une obsession. Par moments, elle croyait respirer des bouffées d'un air chargé de senteurs résineuses. Elle s'endormait le soir, la joue sur des dessins de collines, de sapinières, de sentiers qu'elle avait parcourus avant de s'embarquer, pauvre folle, pour faire le tour du monde. Elle se mit à écrire dans sa chambrette qui était gentille, où personne, passé 10 heures, ne venait frapper à la porte des pages et des pages d'une histoire qui se composait toute seule avec des gens, des sites, un langage de son Jura. Elle se promenait là-bas, elle y rencontrait à chaque détour cette ferme, ce paysan, cet horloger, cet atelier qu'elle connaissait depuis son enfance. quand elle lâchait la plume, tard dans la nuit, elle regardait autour d'elle, ahurie. Elle ne savait plus où elle se trouvait, le petit pensionnat était un rêve brumeux. La réalité, c'était les images qu'avec de l'encre, elle avait tracées dans un cahier. On lui envoyait parfois, de chez elle, des journaux. L'un d'eux l'informa des conditions du concours ouvert par une université romande pour une courte nouvelle d'un auteur n'ayant encore rien publié. « Mon petit conte est tout prêt, je l'enverrai, » décida-t-elle. « Il me semble que cela me rapproche de chez moi. C'est comme un fil que je lance pour entrer. Assurément, je n'aurai pas le prix. Si je le décrochais, je pourrais alors, peut-être, revoir cette bonne Miss Kedy et Mrs. Craig, à qui je dirais que j'ai suivi son conseil. Cela expliquerait l'intervalle. Même si je n'ai pas le prix, cela me poserait un peu d'avoir concouru. Enfin, adieu va. Un peu plus, un peu moins de malchance ne fera pas grande différence. Il n'y a rien dans ce petit conte que mon mal du pays. Et Mrs. Wickert trouve que je brûle trop de gaz. » Thérèse n'avait pas encore décidé de revoir Mademoiselle Galimard quand ce fut une circonstance fortuite qui les jeta quasi dans les bras l'une de l'autre. Une des petites pensionnaires de Mrs. Wickert avait, dans un beau quartier de Londres, une tante qui l'invitait tous les 15 jours à passer le jeudi après-midi chez elle. Il fallait accompagner l'enfant et la ramener, et Madame Wickert, qui s'en chargeait généralement, profitait de l'occasion pour faire des courses en ville et des emplettes dans le West End. Un jeudi de janvier, se trouvant très enrhumée, elle pria son institutrice de la remplacer comme escorte de la petite Gladys. Depuis l'été, Thérèse n'avait pas revu Oxford Street, Piccadilly, Bond Street, les belles rues élégantes aux opulents magasins. Elle faisait juste son devoir, elle allait où on lui disait d'aller. Quand elle eut remis la fillette au butler d'une maison cossue de Portman Square, elle marcha rapidement dans la direction de Piccadilly, sans autre intention que de se réchauffer, car le froid était piquant. Elle descendait Bond Street, dont les trottoirs à 7 heures de l'après-midi sont fort encombrés d'une foule qui va dans les deux sens, qui entre dans les magasins et qui en sort. Un groupe de dames se saluait, les unes quittant leur voiture, les autres remontant dans la leur. Thérèse dut s'arrêter et se tourna contre une devanture où elle plongea des yeux distraits. Derrière la haute glace, une figure passa rapidement. Tout à coup, une porte s'ouvrit à côté de Thérèse, une jeune fille sans chapeau sortit et fit à mi-voix, car personne ne parle haut dans le West End. « Madame, vous prie d'entrer, s'il vous plaît. » À la même seconde, Thérèse savait que la figure à peine entrevue dans l'intérieur était celle de Galimard. Elle franchit le seuil, se trouva dans une pièce qui tenait du salon par son tapis moelleux, ses fauteuils capitonnés et de l'officine par des vitrines pleines de flacons, de petits appareils argentés et dorés, de petits pots de porcelaine. Mademoiselle Galimard, en satin noir sévère mais d'un grand chic, s'empara du bras de Thérèse, lui donna une affectueuse secousse et s'exclama en français « Enfin, je vous tiens, ce n'est pas malheureux. Ah, ma pauvre le maire, vous avez maigri. Ce mari vous fait des chagrins ?» Subitement, comme si ce mot eût déchiré une blessure mal cicatrisée, Thérèse poussa un cri à moitié étouffé, pressa de sa main le haut de sa poitrine, cherchant à réprimer des sanglots nerveux qui montaient. « Voyons, voyons, » fit la vive française, « nous n'allons pas jouer un drame dans la devanture. Venez vite par ici !» Elle ouvrit la porte du fond, que d'épaisses portières dissimulaient, traversa avec Thérèse un second petit salon, vide en ce moment, et poussa sa visiteuse dans un réduit, juste assez grand, pour que deux personnes puissent s'y asseoir. « Une cabine de paquebot, vous voyez? C'est mon domicile. Il s'est passé des choses depuis vous, depuis la pension Stephen. J'ai fait un héritage. Ma tante de Lons-le-Saunier. J'ai tout engouffré dans ce local. Un loyer fou. Mais j'ai mon institut de beauté et ça marche déjà. Vous n'avez pas remarqué l'enseigne? Chez Jeanne. Et en dessous, pour être belle. En français, cela donne tout de suite le cachet voulu. « Remarquez, cher le maire, que je bavarde pour vous laisser le temps de vous remettre. Ça va mieux ? « Je désirais vous revoir, » murmura Thérèse, « mais le courage me manquait. » « Bon, le hasard a bien fait les choses. Je vous ai reconnu à travers la glace de l'étalage. J'ai dit à mon apprenti, « Cours vite et ramène cette jeune dame que tu vois là. À tout prix. »« À tout prix, » répéta Thérèse, qui se mit à rire avec des saccades nerveuses. « Ça ne vous aurait jamais coûté cher, jamais plus que je ne vaux, en tout cas. » Mademoiselle Galimard la regarda d'un air inquiet. « Ne vous mettez pas à me dire des choses qui n'ont pas de sens. Dans une minute, vous tomberiez en hystérie, comme disent ces perruches d'anglaises. Je peux vous offrir une tasse de thé. J'ai rarement des clientes entre 4 et 6. C'est l'heure morte. Mais regardez donc mon installation. Le lit est relevé contre la paroi derrière ce rideau. Le lavabo est dans cette petite armoire. Ce passe-plat communique avec la cuisinette. L'apprenti, qui n'est plus une apprentie, et moi, nous faisons notre petit ménage le matin et je fabrique mes pommades d'après 2 recettes merveilleuses que ma pauvre maman a rapportées de Russie où elle fut bonne d'enfant dans sa jeunesse. Ah, les belles dames russes savent soigner leur teint. Voyez, Célise a deviné que vous prendriez le thé avec moi. En effet, un plateau s'avançait dans l'ouverture du passe-plat. « Maintenant, il faut que je vous dise encore, » continua l'aimable masseuse en versant dans les 2 tasses un thé à la française, c'est-à-dire fort médiocre, « je ne suis plus Galimard. Mon héritage a précipité les choses. Black et moi, nous sommes mariés. Par licence, pour aller plus vite. »« Par licence, » s'exclama Thérèse, « avez-vous votre papier, au moins, votre acte de mariage ?» Il y eut un lourd moment de silence. « N'avez-vous pas le vôtre ?» demanda Black Galimard. Ce fut comme si on avait levé une écluse. La confidence de Thérèse fut torrentielle, si violente par moments que la masseuse, pourtant d'esprit rapide, avait peine à en suivre le courant et les divagations. « Il est mort !» sanglota Thérèse en finissant. « C'est trop certain, c'est la seule explication. Mais moi, à présent, que dois-je faire ?»